Bonjour, bienvenue à tous pour un nouveau message encore ce dimanche. Nous sommes le dimanche 19 avril 2020 et c'est le confinement qui continue. Le message de ce matin est peut-être un petit peu lourd. Des fois, vous savez, on fait la cuisine et puis elle est un petit peu plus riche que d'habitude, peut-être moins facile à digérer. Je vous demande pardon d'avance. J'aurais voulu faire quelque chose de peut-être une version légère, une version plus développée. On a une version intermédiaire ce matin. Merci Seigneur de nous aider à, malgré cela, à bien capter les choses que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, tu vois dans la situation où chacun nous nous trouvons. Et tu vois nos cœurs, tu vois nos dispositions, et nous te demandons, Seigneur, ce matin de nous parler dans notre faiblesse, à travers la faiblesse de ce message sur l'Épître aux Corinthiens, à travers la faiblesse que nous avons pour nous concentrer également si souvent. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de pouvoir pleinement saisir tout ce qu'il y a dans ta parole ce matin pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez peut-être remarqué, on est dans les Corinthiens ce matin, je voudrais lire quelques passages qu'on trouve dans d'autres épîtres. Par exemple, Éphésiens chapitre 5 verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Colossiens 3, 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3. Nous savons bien que l'impudicité n'a pas bonne presse dans la parole de Dieu. Et il se trouve que, au XXIe siècle, elle s'oppose continuellement et sans arrêt. La parole de Dieu s'oppose sans arrêt à notre culture. Il y a un conflit permanent et perpétuel. Mais finalement, pourquoi l'impudicité est-elle montrée du doigt? Sur quoi cela repose-t-il? Qu'est-ce qui fait finalement que l'impudicité soit si mauvaise? Quelqu'un peut dire, je veux bien changer de vie, je veux bien reconsidérer ma vie, mais je voudrais comprendre pourquoi cela. Les questions sont légitimes et la parole de Dieu va nous éclairer là-dessus plus particulièrement ce matin. Alors on va ouvrir la Bible sur la première aux Corinthiens chapitre 12, chapitre 6, pardon, versets 12 à 20. 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Dans nos Bibles, on va reprendre le verset 12 que nous avions vu la dernière fois, qui est à cheval entre deux parties. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit: les deux n'en feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Et certains manuscrits ajoutent, et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alors on le voit, l'apôtre reprend l'église de Corinthe. Et il le fait avec esprit. On avait développé, se servi de ces, des lettres, des premiers mots de cette expression pour voir un petit peu la façon dont l'apôtre fait, la façon dont nous pouvons faire également nous lorsque nous avons à reprendre. Je vais reprendre cette trame maintenant comme première partie de ce message. Alors le avec, c'est les conditions pour reprendre. Bon, a de l'autorité, évidemment, l'apôtre a l'autorité pour le faire, il est le fondateur de l'Église, le V, la vérité dans l'amour, oui. L'apôtre aime les Corinthiens, A, V, E, l'erreur, attention de ne pas se tromper, est-ce qu'on est sûr de soi? L'apôtre est assez prudent, non pas pour dénoncer ce qui est reproché, l'impudicité. Verset 1 du chapitre 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, de l'impudicité donc, et une débauche telle qu'on ne la raconte pas chez les païens. Mais il est prudent ici sur ce qui concerne les personnes, il ne montre personne du doigt. Est-ce que parce que toute l'Église est touchée par ce problème? Certainement pas. Mais c'était peut-être assez répandu. Certainement ce sujet va nous concerner nous aussi, peut-être pas sous cette forme-là, mais une autre, dans l'église de Figeac. Le C du contexte de l'église, qui est important, reprendre quelqu'un, il faut bien connaître le contexte. Et Corinthe possède un temple à Épaphrodite, la déesse de l'amour. Et là, il se pratiquait très certainement de la prostitution sacrée. Mais surtout, Corinthe était un port, une ville cosmopolite, où la prostitution ordinaire, celle que nous connaissons, était largement répandue, plus que dans toutes les cités grecques. Le proxénétisme était également légal dans le monde antique. On achetait une esclave pour en faire une prostituée, pour en tirer des revenus, c'était un investissement. Avec esprit, donc la façon de reprendre, le E de l'exposition du péché, verset 13. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Verset 18. Celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Le mot qui est utilisé ici par l'apôtre est en grec porneia, d'où vient notre mot français pornographie. On le traduit par impudicité, fornication, débauche, relation sexuelle illicite. C'est un terme assez vaste. Et l'apôtre classe ici dans porneia le fait de fréquenter des prostituées, hommes ou femmes, par ailleurs. Et ceci n'est pas étonnant parce que le livre de la loi de Moïse à Lévitique 19-29 le dit très clairement, tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Que devons-nous mettre, nous, au XXIe siècle, sous ce terme de porneia? Alors, premièrement, clairement, toute la liste des chapitres de Lévitique 18 à 20. Donc, vous pouvez vous reporter au message de 1 Corinthiens 5 du début du mois de mars, dans la mi-mars. C'était le 26, je crois. La prostitution, deuxièmement, la prostitution consentie, le fait de fréquenter des prostituées ou le fait de se prostituer. Il y a bien sûr l'existence de l'esclavage sexuel, hein, ça c'est autre chose. Philippe de Courroux, parmi les chrétiens, a beaucoup travaillé pour mettre cela en lumière au XXIe siècle. Et Dieu, bien sûr, est juste pour différencier la victime du criminel. On parle ici de prostitution consentie comme étant de la pornoïa. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Troisièmement, qu'en est-il de la pornographie? Si l'apôtre écrivait sa lettre aujourd'hui, il est certain qu'il évoquerait ce sujet. Est-ce qu'il sortirait l'artillerie lourde de l'exclusion de l'Église? Probablement pas, connaissant notre contexte culturel, la pornographie est un fléau. Il userait sans doute, comme pour nous aujourd'hui, de pédagogie. La pornographie est une addiction redoutable et nous consacrerons, Dieu voulant, un message entier sur ce sujet délicat. En tout cas, on peut le classer sous le terme porneia. Le E de l'exposer les péchés, le S de la solution. Verset 18, fuyez la pornéia. Nous allons développer les solutions proposées par Paul un petit peu plus loin. Le P, E-S, P comme positif, les éléments positifs, encourageants que nous propose l'apôtre sont comme toujours relatifs à notre identité. Au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Au verset 18, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous n'allons pas être encouragés par ce que nous avons fait de bon, par nos performances, non. Nous allons être encouragés par ce que nous sommes en Christ, par ce que nous sommes en Christ. Notre identité qui ne dépend pas de nous-mêmes. Le R de la rupture qui suit, demandez à un alcoolique de ne plus boire. Il vous répondra, mais si c'était si simple, son corps réclame l'alcool. Le R pour nous ce matin sera plutôt un R de la réorientation. Se réorienter. Où est-ce que je suis et dans quelle direction je souhaite aller et pourquoi? Ce matin, par rapport à la pornéia qui peut peut-être nous toucher sous une forme ou l'autre, il ne va pas y avoir de grande décision, si ce n'est la fuite. Alors, c'est pas glorieux, hein, un soldat qui fuit devant l'ennemi, mais au moins il sauve sa peau, hein. Mais ce que je vous propose ce matin, c'est une réorientation. Je sais où j'en suis. Je sais où je dois aller, je sais où je veux aller et je sais pourquoi je dois y aller, pourquoi je veux y aller. Si vous préférez, le R peut être aussi le R du mot repentance. C'est tout à fait convenable aussi. Esprit, le I de l'illustration. Donc, vous avez remarqué la façon dont l'apôtre s'y prend. Versets 13 et 14. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. L'apôtre déclare que la consommation de sexualité n'est pas comme de la soupe, le repas que l'on prend tous les jours pour se soutenir. Il utilise également la pédagogie du questionnement. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? À trois reprises. Ne savez-vous pas? Il pose des questions auxquelles, bien sûr, les Corinthiens ont des réponses. Et enfin, le T de la théologie. La théologie va jouer un rôle central dans notre texte ce matin. Nous sommes enfants de Dieu et ce sont des enseignements sur Dieu et sur nous-mêmes qui vont être salutaires. Ne voyons pas la théologie comme quelque chose d'accessoire dans la vie chrétienne, qui ne serait là que pour satisfaire une curiosité intellectuelle à ceux qui ont de l'instruction. Non, vous le savez, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La théologie va être centrale dans la pédagogie que veut mener l'apôtre ce matin pour nous. Et on commence avec ça. Deuxième partie, vous pouvez marquer une pause si vous voulez à ce stade. Avant de commencer la deuxième partie, notre corps humain a de la valeur et pour nous chrétiens, il est saint. Notre corps humain a de la valeur. Réfléchissons sur le corps de Jésus de Nazareth. Le corps de Jésus sur la croix a été meurtri. Jésus a été meurtri, mais son corps est resté saint. L'offrande du corps de Jésus meurtri était pure. Ce ne sont pas les coups de fouet, les clous sur les mains et les pieds, la couronne d'épines qui ont retiré quoi que ce soit à l'offrande du corps de Jésus. Quelle parole de Jésus répète-t-on avant de le prendre à la scène ? Ceci est mon corps. Jésus a donné son corps pour nous. Son corps était saint. Sur la croix, dans un corps semblable au nôtre, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, affirme la parole de Dieu en 2 Corinthiens 5:19. Dans un corps semblable au nôtre, Dieu était en Jésus-Christ. Réfléchissons sur notre corps. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Il y a une différence entre le corps et la somme des organes biologiques qui le composent. Notre corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Si notre corps est pour le Seigneur, alors notre corps est saint, car tout ce qui est pour Dieu et à Dieu est saint. Notre corps est saint. Et comme Jésus, on peut nous frapper, nous torturer même, nous glisser des épines sous les ongles. Notre corps n'en restera pas moins saint. Quelle parole du Seigneur répétons-nous quand nous prenons le repas du Seigneur ? Après avoir remercié Dieu, Jésus a pris du pain et il a dit « Ceci est mon corps pour vous ». 1 Corinthiens 11. Le Seigneur est pour le corps, affirme notre texte. Pour parler de ce que Jésus est pour l'Église et de ce que l'Église est pour Jésus, la Bible nous donne l'image de l'être humain avec sa tête, Jésus, et son corps, l'Église. Et l'ensemble forme un tout indissociable. Réfléchissons maintenant sur la résurrection de Jésus. On est à côté de la fête de Pâques, juste on va relire un passage de Luc, chapitre 24, versets 36 à 42. Luc 24, 36 à 42. Donc Jésus, les disciples d'Emmaüs reviennent retrouver les apôtres, verset 36, 24, Luc 24, 36. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il la mangea devant eux. Jésus a ressuscité dans un corps différent de celui que nous connaissons. Il apparaît ici sans passer par la porte, mais en même temps semblable, capable de prendre de la nourriture. Jésus a un corps. Jésus ressuscité a un corps. Il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et comment est-il monté au ciel? Les apôtres l'ont vu avec son corps. Que voit Jean lors de la vision de Jésus dans le ciel en Apocalypse 1.13, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Verset 14 de notre texte. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Les chrétiens morts en Christ vont ressusciter dans un corps. D'ailleurs, tous les morts vont ressusciter. Hein. Les humains ont été créés corps et âme, corps et esprit, selon notre texte ce matin. La mort s'attaque à notre corps et le réduit en poussière à cause du péché. Le triomphe de Jésus sur le péché et la mort ne serait pas total si l'âme ne retrouvait pas un jour un nouveau corps. Nous ne savons pas grand-chose sur ce corps, sauf que de nos yeux, nous le verrons. Je ne résiste pas au plaisir de relire ce passage de livre de Job, cette déclaration qu'il a faite il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans de cela. Chapitre 19. Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Nous aurons un corps et de nos yeux, nous verrons Jésus. C'est ce que déclare également l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3, un passage qu'on aime tant. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous savons autre chose sur le corps de la résurrection. Selon l'enseignement de Jésus, à Marc 12, 25 par exemple, quand il y a ce débat avec les Sadducéens sur la résurrection, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et Jésus donne une précision ici. Marc 12, 25. Car à la résurrection des morts, Les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel. On peut conclure de cela qu'il n'y aura pas de sexualité dans le ciel. Voilà un point important de notre réorientation ce matin. La sexualité arrive à l'adolescence et elle se retire ensuite pour ne plus jamais revenir. Nous ne devons pas fixer les yeux sur quelque chose qui va être éphémère. Nous ne devons pas placer la sexualité au centre de nos vies et monter au temple pour adorer Aphrodite avec l'ensemble de nos concitoyens. La sexualité n'est pas au centre de l'humanité. La sexualité est en périphérie de l'humanité. C'est un point important pour nous réorienter ce matin. La sexualité n'est pas au centre de l'humanité, mais elle est en périphérie. Fin de cette deuxième partie, troisième et dernière partie maintenant. Cinq raisons de ne pas pratiquer la porneia. Bon, il y en a cinq, c'est beaucoup. Mais il y en a cinq quand même ici que j'ai trouvé dans notre texte. Première des raisons de ne pas pratiquer la porneia. Nous sommes liés à Christ. Nous sommes liés à Christ. Versets 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit à Jésus est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Faut-il le rappeler? Nous sommes liés à Christ. Christ qui est Dieu le Fils. Et nous sommes donc saints. Quelqu'un de saint ne va pas forniquer avec une prostituée. Cela ne va pas ensemble. Cela revient à salir Christ. C'est inimaginable. Mais qu'est-ce qui pouvait passer par la tête de plusieurs à Corinthe pour aller et ouvertement, sans cacher, pour aller fréquenter des prostituées? Ce peut être Christ a tout accompli. Je ne suis plus sous la loi. Personne ne peut me juger. Tout est à moi. Je suis libre en Jésus-Christ, tout est permis. En soi, ce n'est pas faux et ça devait correspondre là à un enseignement de Paul, mais un enseignement déformé. C'est vrai, Paul venait d'écrire, même quelques chapitres plus tôt, chapitre 2, verset 15 de l'Épître aux Corinthiens, « L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Et chapitre 3, 22, tout est à vous, mais il ajoute, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Nous avons vu que la porneia faisait partie des quatre prescriptions de la loi de Moïse qui restaient valables pour les païens. Ou bien peut-être ces chrétiens pensaient, je suis spirituel. Seule mon âme compte, peu importe mon corps qui est destiné à la tombe. Il a besoin de sexe, je lui donne du sexe. Non, notre corps fait partie de nous. Seule la mort sépare le corps de l'âme et c'est quelque chose de temporaire. Tous les humains vivront l'éternité dans un corps. Première raison, nous sommes liés à Christ. Deuxième raison, la porneia est un poison pour notre corps. Verset 18, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à la porneia pêche contre son propre corps. On peut penser aussi aux maladies sexuellement transmissibles, bien sûr, mais sans cela. La pornéa avilit notre corps. Donner de la sexualité illicite à notre corps va lui faire du mal. Les neurologues disent que cela détériore le cerveau de manière semblable à l'action de la prise de stupéfiants, de la consommation de drogue. C'est sérieux. La parole de Dieu, c'est sérieux. Ces avertissements. La pornéa est un poison pour notre corps. Troisièmement, nous sommes le temple de Saint-Esprit. Verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà une bonne raison de ne pas faire n'importe quoi avec notre corps. Bon, dans un autre registre, c'est la mode de faire des piercings, des tatouages. Je parle des choses visibles ici. Et il n'y a pas de loi contre cela. On dit, je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps. Mais pourquoi le faire? Quelle raison? C'est beau? En tout cas, ce n'est pas ainsi que le Créateur a envisagé notre corps quand il nous a tissés dans le sein de notre mère. Il ne s'est pas trompé en nous donnant le corps que nous avons, qui est unique. Que nous le trouvions beau ou pas, c'est celui que Dieu nous a donné. Le temple de Jérusalem était magnifique. Et aux yeux de Dieu, notre corps est magnifique. Il abrite l'Esprit de Jésus. Quoi qu'en pensent les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision. Le corps que Dieu nous a donné est magnifique. C'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes liés à Christ. La pornéa est un poison pour notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quatrièmement, nous avons été rachetés à grand prix. Verset 20. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et comment faire grandir encore cette valeur aux yeux de Dieu? L'apôtre Pierre nous donne une bonne piste. Chapitre 3, verset 3. Bon, s'il s'adresse particulièrement aux dames, mais dans notre contexte, vous pourrez facilement le transposer dans les situations des hommes. Chapitre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, que ce soit des habits à marque ou pas, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà comment augmenter notre valeur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix et on peut faire grandir encore cela. Cinquièmement et dernier point, nous avons une autre mission. Notre corps a une autre mission, un autre rôle à jouer que de s'adonner à la porneia. Verset 20. Vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Et d'autres manuscrits ajoutent dans votre esprit qui appartient à Dieu, on ne va pas développer ça. Dans votre corps, rendez gloire à Dieu. Glorifiez Dieu, voilà une sainte occupation pour des saints. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et on peut rajouter, tout n'est pas utile pour glorifier Dieu. Ceci nous amène à considérer la liberté qui est chrétienne. La liberté chrétienne qui est introduite par ce verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Lisons l'Épître aux Galates, chapitre 5. Verset 1. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude de la porneia. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, un texte qu'on connaît bien. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle valeur aurait notre service s'il n'était pas libre, s'il n'était pas une action volontaire de notre part? Quelle gloire Dieu tirerait d'un service qui serait contraint, qui serait obligatoire, qui serait obligé, qui répondrait à une obligation légale? Quelle gloire Dieu tirerait de cela? L'expression de l'amour est-il possible sans liberté? Oui, Dieu nous a rendus libres. C'est un point fondamentalement et majeur pour nous réorienter. Nous avons la mission et la liberté de glorifier Dieu. Allons-nous nous salir avec de la pornoïa, même dans nos pensées? Non, loin de là. La pornoïa, la sexualité illicite, c'est la pollution du corps de Christ. C'est du torfait à notre propre corps. C'est un retour à l'esclavage. C'est la fin de la libre expression de notre amour pour notre Seigneur. Alors tous ensemble ce matin, suivant les recommandations de la parole de Dieu pour nous, fuyons-la. Fuyons-la. On va terminer avec un chant que j'avais prévu pour accompagner ce message, le 629, Nous sommes au Seigneur. Je vous encourage à le chercher sur le recueil de chants qui est téléchargeable. Si vous ne l'avez pas déjà fait, le 629, Nous sommes au Seigneur. Vous trouverez la musique également. Je vais le chanter, j'ai pas trouvé personne sur Internet qui chante ce chant. Alors on y va. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité, Jésus, que tu nous aimes. Ta croix nous a rendus la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, habitons pour sa gloire, et mourant au péché, saints héritiers du ciel, saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Sommes au Seigneur que nos âmes te louent, que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Ô Jésus, métier d'heure, souvent te désavoue, je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, dans la sombre vallée du dernier ennemi, Jésus me rend vainqueur. La face de mon Dieu ne peut m'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur.